des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Alors, Félix, il y a des filles qui sont prêtes à risquer leur santé pour se faire poser des nouveaux seins, de nouvelles fesses. Il y a des gars qui sont prêts à risquer leur santé pour avoir des gros muscles.
Et c'est toujours la quête du corps parfait. Je voulais souligner le travail de Jérémy Bernier dans un dossier extrêmement fouillé dans le Journal de Montréal là, en fin de semaine sur les stéroïdes anabolisants. Et on relate le témoignage de plusieurs personnes, des garçons principalement. Et je trouvais intéressant de voir que le corollaire, si tu veux, dans tout ça, c'est souvent des jeunes qui avaient une stature très peu forte là de l'adolescence, qui avaient été intimidés aussi et qui, quand ils avaient commencé à prendre soin de leur corps, ont commencé aussi à prendre des stéroïdes pour certains, et jusqu'à temps que ça devienne cette quête qui finalement fait en sorte qu'on se met des œillères, puis tout ce qui est à droite, tout ce qui est à gauche de cet objectif-là, on ne le voit pas et on commence à consommer ces produits dopants illégaux. Entre autres, il y a l'histoire de Pierre-Alexandre Charrette qui est mort à 27 ans. 27 ans des complications d'une hépatite qui était causée par la consommation d'anabolisants. Écoute, quand il est décédé, il avait le médecin, enfin c'est sa sœur qui est interviewée par mon collègue Geneviève Charrette, elle raconte que le médecin lui a dit qu'il avait le cœur d'un octogénaire à 27 ans. Épouvantable. Il est décédé il y a 10 ans, en août 2012. Il a été admis au centre hospitalier de Saint-Eustache. Il vomissait du sang. Et là, il y avait une hépatite sévère. Là, il a commencé à avoir des épisodes d'hallucination, de délire, d'agitation. Son cœur s'est arrêté. Alors, c'est ça. Il y avait d'autres substances aussi dans son corps. Mais tu vois, la question dans ça, c'est qu'il commençait à travailler comme danseur nu aussi au Stock Bar dans le quartier gay à Montréal. Et là, tu vois, il consommait. Ce qui est intéressant, là, c'est que sa sœur dit que le cercle vicieux a commencé là, dans son cas. Donc, il dansait pour payer ses stéroïdes, pour bien paraître, pour continuer à danser. Tu comprends un peu où ça s'en va tout ça?
C'est un cercle vicieux total, là. Puis tu sais, c'est tout le temps le raccourci, là. Tu sais, je veux muscler rapidement parce que, bon, oui, tu étais capable de changer ton corps, mais ça prend un certain temps avec un entraînement, tout ça. Mais non, on veut perdre du poids en 2 semaines. On veut être musclé en 3 semaines. Alors, il passe par un raccourci qui sont les stéroïdes. Et pourtant, il y en a eu des reportages au fil des ans là-dessus en disant c'est grave.
Ben oui, justement, puis c'est pas juste l'apanage des jeunes gens aussi. On raconte l'histoire d'Éric Thibodeau, qui lui est décédé, il avait 45 ans. C'est le voisin dans son immeuble qui manquait d'eau chaude, qui a décidé de cogner chez lui. Et finalement, sous la douche, on l'a trouvé mort en 2020. Puis c'était suite à un épisode de saut d'humeur où sa famille avait dû quitter le logement d'ailleurs pour s'en aller ailleurs parce qu'il était devenu très agressif. C'était une situation intenable pour cette famille-là. Sa femme dit même que quand il consommait des stéroïdes, il se transformait en Hulk et il était tellement... il faisait tellement preuve d'une force un peu surhumaine que lorsqu'il s'accrochait dans un cadre de porte, il cassait, tu vois. Moi, je trouve que c'est des histoires qui sont pertinentes à raconter.
Oui.
Et manifestement, en 2022, alors moi, il me semble que depuis Ben Johnson, j'entends parler des ravages des stéroïdes, mais semble-t-il qu'il faille refaire le point là-dessus.
Tu sais que ça attaque directement aussi, selon certains reportages, tes bijoux de famille. Là, il me semble que j'y penserais 2 fois avant de prendre des stéroïdes, mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'époque, hein, avec les médias sociaux, tu sais, on vit de plus en plus dans le regard des autres. Le regard que les gens portent sur nous semble extrêmement important. on vit de plus en plus dans l'apparence, puis voilà, c'est ça. Il y a des filles qui meurent à l'étranger parce qu'elles veulent faire changer leur corps, puis il y a des gens qui crèvent ici, des gars, à cause des stéroïdes. Tu veux me parler de ce reportage sur le nombre de décès dans les CHSLD pendant la pandémie?
Ben oui, on avait des bons journaux en fin de semaine, puis aujourd'hui, Élise Archambault puis Hugo Duchesne dans le Journal de Montréal ce matin nous publient un reportage que je trouve frappant. 1000 Québécois, 1000 aînés qui sont morts de chute dans un CHSLD depuis le début de la pandémie. Ce que Héloïse et Hugo ont fait, c'est qu'ils ont fait une compilation. Ils ont lu et compilé 1297 rapports de coronaires suite à des décès en centre d'hébergement et soins de longue durée. Premier constat, donc 1027 aînés décédés des suites d'une chute au sol. 79% des décès sur lesquels a enquêté le bureau du coroner donc correspondent à des chutes au sol. Et il y a même, tu sais, il y a même un gars qui a chuté, un monsieur, soyons polis, qui a, en mars, il est décédé en mars 2020, il avait chuté 39 fois. En 2019, 39 fois. Alors, c'est pas une vie, là.
Non, tu es toujours tombé. À cet âge-là, puis... là, tu te casses des hanches, tu te casses des bras, tes os beaucoup plus fragiles. Mais moi, le chiffre qui m'a vraiment extrêmement attristé là-dedans, c'est 40 suicides.
Écoute,
c'est énorme. Ben oui. C'est énorme, là, je trouve.
C'est beaucoup, hein. Et ça me rappelle une anecdote que je peux te raconter maintenant, là, que je ne pouvais pas à l'époque te raconter. Quand on a fait le reportage La guerre des 100 jours, là, on a été avec Christian Dubé au cabinet du ministère de la Santé, donc pour documenter la campagne de vaccination. Et on a assisté à plusieurs rencontres avec le cabinet de Christian Dubé, mais d'autres ministères également, parce qu'il y a des discussions quotidiennes sur l'état du réseau de la santé, puis l'état des résidences aussi, puis des CHSLD. Et Marguerite Blais prenait la parole dans une de ces rencontres. Tu sais que les cafétérias de CHSLD étaient fermées hein, pendant le plus clair de la pandémie. Et ça faisait en sorte que les lieux de socialisation, normalement fréquentés par nos aînés, c'est souvent, à 88 ans, exemple, pour reprendre l'expression, pas l'expression, mais le cas de cet homme-là, tu sors pas nécessairement prendre ton café à chaque matin où tu veux, là, le lieu où tu socialises, c'est la cafétéria souvent de ta résidence. Et là, il y a une femme donc coupée de ce lien vital avec la socialisation qui s'était jetée du 7e étage, une aînée, parce qu'elle en pouvait plus, puis elle avait toute sa tête, là, tu comprends, guillemets. Alors, ça m'a frappé, moi aussi. Ça m'a frappé beaucoup, ce chiffre-là. OK,
c'est pas une dame qui était perdue, puis tout ça, elle le fait vraiment de façon volontaire, en sachant fort bien ce que... Écoute, l'isolement, il y a des gens qui ont extrêmement souffert, là, des personnes âgées pendant cette pandémie-là, puis peut-être qu'on les a pas écoutés assez. On s'inquiétait beaucoup de leur santé physique, mais très peu de leur santé psychologique. Tu me parlais d'Odessa. T'es allé à Odessa, oui. Finalement, toi, là.
Oui, je suis allé à Odessa sans avoir pu voir les fameux escaliers du cardinal Richelieu ou surnommés les escaliers Potemkin, parce qu'elles étaient gardées. C'était devenu une cible probablement militaire, en tout cas stratégique minimalement. Alors, je fais un petit détour pour te reparler d'Odessa parce que c'est assez important. C'est drôle à dire, là, je veux dire, la formulation suivante, c'est assez important ce qui ne se passe pas à Odessa présentement. Le Danemark, là, vient, la dépêche de l'AFP est reproduite dans le journal de Montréal. Le Danemark vient de s'engager à fournir des missiles Harpoon à l'Ukraine. C'est des missiles qui sont d'habitude installés sur des croiseurs, sur des bateaux. Sauf que là, le Danemark a acheté la nouvelle génération de ces missiles-là, puis il sera capable de les installer sur des camions. Et ils ont l'avantage, ces engins-là, d'être extrêmement précis. Ils sont embarqués, je te l'ai dit, à bord de navires de guerre normalement, mais ils sont équipés d'un radar autonome puis d'un système de navigation très, très sophistiqué. Ce que fait le Harpoon, c'est qu'il vole à très, très basse altitude pour éviter les radars. C'est construit par Boeing et est capable de toucher une cible en mer dans un rayon qui peut aller jusqu'à 300 km. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que l'Ukraine, tu sais, là, la Russie d'ailleurs, mais l'Ukraine particulièrement, font partie des plus grands producteurs de céréales au monde. Et là, le port de Sébastopol, qui est en Crimée, est donc évidemment occupé par la Russie, mais le port de Kherson aussi est occupé, puis le port d'Odessa, qui est le plus grand port sur le côté de la mer Noire, est lui bloqué, parce que les Russes ont imposé un blocus du port d'Odessa, puis c'est par Odessa que transitent toutes les céréales des terres parmi les plus fertiles au monde, que j'ai traversées d'ailleurs, les terres d'Ukraine, les plaines d'Ukraine. Et tu vois, c'est très, très, très important que l'Ukraine puisse débloquer son port.
Mais sinon, il va avoir une famine, là.
Ben justement, il y a une question il y a une question de famine mondiale, mais il y a une question de capitaux aussi qui sont extrêmement importants pour les Ukrainiens en vendant cette production de céréales. On a entendu en fin de semaine une entrevue avec le ministre de l'Agriculture ukrainien qui disait, écoute, on essaie de passer par le chemin ferroviaire, si on veut, et il y a un problème, tu sais, la fameuse intermodalité, là, c'est-à-dire que les rails qui sont les mêmes puis qui peuvent transiter sur des camions, etc., à différents points d'entrée et de sortie de l'Ukraine, puis ça fonctionne pas. On essaie d'importer, pas d'exporter plutôt par train, mais même en faisant, puis là j'extrapole, là, mais ce que je décode du message, c'est que même en faisant circuler des trains 24/7, on n'arriverait pas à exporter autant, puis à sortir le grain. Et le grain, il va pourrir à un moment donné aussi. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, je sais pas si tu as vu, ça vient de tomber, la justice russe a confirmé la condamnation d'Alexis Navalny à 9 ans de prison. C'est arrivé aujourd'hui, ça vient juste de se passer.
Ouais. Écoute, cette guerre-là continue, et ça ne fait plus les premières pages, ça se ramasse même plus dans les 5 premières pages.
On est habitué
à vivre avec ça, et on ne voit pas
Je regardais en fin de semaine, là, j'étais complètement renversé, puis c'est pas un jugement sur la manière dont les médias, là, nos amis chez Québécois, mais nos concurrents aussi ailleurs font leur travail, mais on n'en avait que pour la tempête de vent, tu sais, on n'en avait que pour les problèmes de communication, puis les problèmes de pétrole, notamment d'approvisionnement pour les génératrices dans les Laurentides. Puis des fois, quand tu prends la mesure, tu sais, de la catastrophe des uns par rapport à la catastrophe des autres, tu te dis, ben voyons, tu sais, c'est plus, ça fait même plus partie des sujets dont on se préoccupe énormément. Alors, c'est pour ça que je continue d'ailleurs à t'en parler, tu sais.
Et c'est ça qui est vraiment épeurant. On s'habitue à cette guerre-là. Elle fait partie de notre paysage quotidien. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain.
Bonne chance à ton resto, Richard. Bye bye.
Salut, bye.